Je voulais d'abord vous remercier d'être là, remercier Jean Bosco de son invitation et m'excuser près de vous parce que je ne suis pas nivernaise, je suis bourbonnaise. Ah ma mère, quelle horreur. Bon. Alors, pour moi, c'est la forêt de Troncé et c'est pas Nevers, mais Nevers, c'est ma fille, mon gendre et mes petits-enfants. Donc, je suis tout de même un petit peu adoptée, j'espère, par vous. Et je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée et d'une certaine manière imposée par M. Bosco qui m'a dit « Vous allez parler de qu'est-ce que la vie ?» Et je dois dire que, personnellement, c'est une question qui me terrifie et à laquelle je vais essayer de répondre d'une manière qui va peut-être vous surprendre un peu. M. Bosco m'a présenté comme philosophe. Je suis effectivement tombée dans le bain philosophique depuis mon plus jeune âge et jusqu'à l'agrégation. Et puis ensuite, j'ai pataugé ailleurs. J'ai été me baigner ailleurs. Et cet ailleurs, c'est ce qui sera d'une certaine manière la référence de ce que je vais vous dire ce soir en essayant de n'être pas trop rébarbative. Cet ailleurs, ça n'est pas la philosophie des sciences, c'est l'histoire des sciences, c'est-à-dire cette discipline qui est toujours marginale, on est toujours l'hybride ou le bâtard ou le traître objectif de sa première formation. Moi, ma première formation, c'était effectivement la philosophie. Ma seconde formation, c'était la biologie et la préhistoire. Et je suis tombée donc dans la bassine de l'histoire des sciences grâce à un professeur extraordinaire dont le nom vous dit peut-être quelque chose, qui est Georges Canguilhem, qui a beaucoup publié et dont le texte fondateur a été un texte dont le titre, lui, vous dira quelque chose, le normal et le pathologique. Donc, histoire des sciences, et je vais y revenir, histoire des sciences dans un esprit contestataire, et je vais y revenir tout à l'heure, contestataire parce que moi qui n'étais pas mathématicienne, moi qui n'étais pas physicienne, mais biologiste, anatomiste, j'ai disséqué des souris, des écrevisses, j'ai regardé au microscope, j'ai manipulé des tubes à essai, moi qui n'étais pas mathématicienne, j'étais folle de rage à l'idée que les historiens des sciences canoniques, auxquels nous nous des deux générations d'avant la mienne, pour eux, la révolution scientifique qui a fondé notre science moderne, qui est née, dit-on, au XVIIe siècle, c'était une révolution scientifique dont la référence était Galilée, Copernic et Newton, c'est-à-dire la physique théorique, la mécanique, l'astronomie, ce que, deux siècles plus tard, Auguste Comte, dans sa classification des sciences, dira la science des choses intangibles, c'est-à-dire de ces... On ne va pas toucher les astres. Il a fallu attendre longtemps pour marcher sur la Lune. Mais donc, les choses intangibles, c'est-à-dire les choses qu'on observe, les choses qu'on calcule, les choses dont on déduit à la fois et l'existence et le mouvement... Et donc, Newton, Galilée, Copernic, et d'une certaine manière, je le dis d'ailleurs dans une nouvelle préface de ce petit bouquin, ça dure, cette espèce de méconnaissance des sciences de la vie, j'en reviens à mon titre, dans la mesure où, par exemple, Bertolt Brecht, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit une pièce magnifique sur le procès de Galilée. Mais qui se souvient, qui dit... que exactement à la même date où Galilée publie ce qui lui vaut la rétractation, et il y a un livre fondateur qui est le livre de William Harvey, le De Motu Cordis, c'est-à-dire du mouvement du cœur, dans lequel Harvey démontre expérimentalement, quantitativement, que la circulation du sang chez l'homme et chez l'animal est une circulation circulaire, le titre le dit bien, qui met en rapport à la fois l'air expiré et l'air inspiré, et que tout se passe au nom d'une combustion qui est calculable, qui est expérimentable et qui assure l'unité du corps humain. Et j'ai parlé de Brecht, mais quel est le Brecht qui mettra en scène un procès qui a eu lieu à peu près un petit peu avant le procès de Galilée, le procès de Vézal. Vézal, un grand anatomiste dont vous connaissez peut-être certaines planches, car il s'est fait aider des plus grands dessinateurs de la Renaissance pour dessiner le corps humain, le squelette humain, la musculature humaine, le réseau nerveux humain. Il a été le médecin de Charles Quint. Il a enseigné à Padoue, comme c'était la mode au XVIe siècle. Et Leyde, Padoue, l'Europe de la science, l'Europe du savoir, était là dès le XVIe, dès le XVIIe siècle. Et le malheureux Vézal, médecin de Charles Quint, a été traduit devant l'Inquisition parce que, disait-on, et je retrouve tout de même mon propos, parce que, disait-on, il avait disséqué une femme dont on pense qu'elle respirait encore. Et il a été condamné à faire un pèlerinage à Jérusalem pour expier ses péchés, ce qu'il a fait. Il devait rentrer à Venise. Le bateau sur lequel il s'était embarqué a été pris dans une tempête épouvantable. Le bateau s'est, dit-on, fracassé, mais je pense plutôt, dans mon imaginaire à moi, que les marins ont été persuadés que cet impie avait déclenché la tempête. Il a été abandonné sur les plages de l'île de Sente et il est mort de faim sur cette plage. Ça ferait tout de même une belle pièce pour répondre, pour que Vézal réponde à Galilée, pour que les débuts des sciences de la vie, au sens expérimental, au sens démonstratif, au sens quantitatif, soient honorés par les historiens des sciences au même titre que les débuts de la science de la mécanique classique. Et j'aimerais bien qu'après avoir parlé du siècle de Galilée ou avoir défini le XVIIIe siècle comme le siècle de Newton, on définisse le XVIIe siècle comme le siècle de Harvey et le XVIIIe siècle. Alors, soyons un peu ironiques, comme le siècle de Lavoisier, chimiste, ou de Réaumur, mécanicien, qui élabore le mécanisme de la digestion pour Réaumur, et qui montre que la digestion est à la fois un phénomène mécanique et un phénomène chimique, ou comme Lavoisier, chimiste, et pour paraphraser ce qu'on disait de Pasteur, pas même médecin, qui met en lumière, et je trouve ça génial, dans les années 1775-1785, ce qu'il appelle les trois régulateurs de la machine animale, la respiration, la circulation, et la combustion, et la respiration, enfin la combustion, et donne ce qui va me permettre de passer à autre chose, ce qui, jusqu'à maintenant, peut être la définition de la vie, un état instable, un état en constante remise de stabilité, de régulation, d'équilibrage. Et là, je cite ce dont j'étais censé partir, c'est-à-dire le titre du livre de Schrödinger, Erwin Schrödinger, 1944, que je cite parce qu'il a paru en livre de poche, donc il est accessible, et qui donne de la vie cette définition superbe. La vie, c'est un état métastable dont la stabilité est la mort. Métastable, parce qu'on est toujours dans la recherche de l'équilibre, on a faim, on respire, on se réchauffe, on procrée éventuellement, Et puis, si on cesse d'échanger, si on cesse de rechercher cet état d'équilibre, eh ben, on se couche dans le cercueil. Bon, et je crois que là, si vous voulez, vous avez une très belle définition qui rejoint celle de Lavoisier et qui va rejoindre celle de Bichat que je vais vous donner tout à l'heure. Donc, si vous voulez, j'ai accepté ce titre de conférence parce que c'est le titre de ce livre de Schrödinger qui me semble donner à moi, historienne des sciences, certaines clés pour comprendre la vie. J'ai retrouvé la philosophie à un moment donné. Mais la vie, qu'est-ce que c'est? C'est une idée générale. Nous avons toujours affaire au vivant. Et nous disons que le vivant participe de la vie, mais la vie, c'est une idée. Et je touche le vivant, est-ce que je touche la vie? Alors certains scientifiques actuellement dans leur laboratoire disent « je crée la vie ». Nous pouvons y repenser et se demander si ça n'est pas la vie qui crée la vie, mais si l'homme, enfin je ne sais pas. Donc si vous voulez, je vous ai dit tout de suite quelles étaient les raisons pour lesquelles je vais essayer. Je n'ai pas de plan, j'en ai un, mais je ne vous l'annonce pas. J'ai quelques repères que je vais. C'est pour ça. Oui. Voilà. Quelques repères qui sont une manière de s'orienter dans un temps historique relativement court à l'échelle du quaternaire, 17e siècle, 21e siècle, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas grand-chose. Et en même temps, cette histoire, personne ne la connaît sauf les historiens des sciences. Je sais que il m'est arrivé d'avoir, et ça c'est un des bonheurs de cette discipline, c'est d'avoir un auditoire de toutes les origines. J'ai eu des étudiants juristes, des étudiants historiens, des étudiants philosophes, des étudiants scientifiques, et je les avais toujours au tournant en début d'année en leur disant « 1789, qu'est-ce que ça vous dit ?» Et alors ils me disaient « Vous avez l'air de me prendre pour une idiote. C'est la prise de la Bastille. » Et je disais « Non, c'est le traité de chimie de Lavoisier. » Le traité de chimie de Lavoisier, dans lequel Lavoisier, chimiste, le père des régulateurs de la machine animale, donne la définition de l'élément chimique et met au point une nomenclature sur laquelle nous vivons encore. Si nous parlons aujourd'hui d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, eh bien, merci Lavoisier, merci 1789. Alors je crois qu'il y a, et c'est pour ça que je vous ai donné quelques repères, qu'il y a peut-être une lecture de ces quatre siècles. On est tous un petit peu historiens tout de même de cœur, sinon de raison. C'est une bonne chose de s'orienter dans une histoire que je vais essayer de tracer très rapidement, j'espère sans vous ennuyer, dans cette histoire de quatre siècles, sur la recherche d'une définition de la vie, en croisant des problèmes philosophiques qui sont consubstantiels à cette question. Alors, bien sûr, là je parle sans notes, mais j'ai préparé des notes comme toute personne sérieuse ou soi-disant telle. Et je voudrais commencer par un problème, non pas de définition, mais de vocabulaire. Nous parlons. Nous parlons et nous employons ce terme de vie et tous les dérivés, le vivant, les corps vivants, les êtres vivants, la vitalité, etc. Et alors, j'ai fait, bien évidemment, un petit tour du côté de la vie. Bon. Et qu'est-ce qu'on entend par mot vie ? C'est un nom commun. Et c'est un nom très connu. Et même, si vous voulez, si vous vous référez aux grands ancêtres philosophes, que ce soit Platon ou Aristote, bios, la vie, c'est là. Et le vivant, c'est quelqu'un qui, là je cite Aristote, et pardonnez-moi en grec parce que je trouve ça tellement joli, le vivant humain, c'est quelqu'un qui est possédé par, dit-il, l'orexis tou eidenai, c'est-à-dire le désir de savoir. Et Platon avait déjà dit que le philosophe était amoureux parce qu'il avait ce désir de savoir qui habite tout être vivant. Désir de savoir ou désir de vivre, je ne sais. Mais donc, déjà une première indication, un désir. Un désir de savoir ou un désir de vivre. Mais c'est un mot tellement connu, et là je ne résiste pas à la cuistrerie qui m'est propre, c'est-à-dire, vous citez John Locke, le démindationnel du traité de la réforme de l'entendement, fin du XVIIe siècle, et voilà ce qu'il dit en ce qui concerne le mot « vie » en 1690, je justifie ce retour au XVIIe siècle. Il n'y a pas de terme plus commun que celui de vie, et il se trouverait peu de gens qui ne prissent pour un affront qu'on leur demande ce qu'ils entendent par ce mot. Soyez tranquille, Jean Bosco, je n'ai pas pris ça pour un affront. Bon, bien. Et puis, qu'on entende la vie bonne ou vertueuse, ou qu'on entende pour parler comme Platon, et je le cite, le fait de se nourrir, de croître ou de dépérir pour soi, par soi-même, ou bien avec Aristote, cette affirmation que je trouve superbe et avec laquelle je réfléchis depuis longtemps, l'homme engendre l'homme, anthropos, anthropon, genou, c'est-à-dire... Et là, on est suffisamment dans un territoire d'élevage pour savoir que seul le mulet est stérile et que effectivement le même engendre le même, en principe. Bon, mais tout se complique quand on s'interroge sur l'inconnu que peut receler ce terme de vie. Et là, je continue à citer Locke avec une étrange impression de modernité. Cependant, ce terme tellement connu, tellement commun qu'on rigole si on me demande ce que ça signifie. Cependant, dit Locke, s'il est vrai qu'on mette en question si une plante qui est déjà formée dans la semence a de la vie. C'est tout le thème de la préformation, disent les historiens. Si le poulet dans un œuf qui n'a pas encore été couvé, ou un homme en défaillance, sans sentiment ni mouvement, est en vie ou non, il est aisé de voir qu'une idée claire, distincte et déterminée n'accompagne pas toujours l'usage d'un mot aussi connu que celui de vie. 1690, et vous retrouvez, me semble-t-il, ce qui peut être traduit dans le vocabulaire de la génétique moderne ou de l'embryologie contemporaine ou de la biologie moléculaire actuelle. Et un vocabulaire ou des questions que nous trouvons posées dans les journaux que nous lisons aujourd'hui, dans un autre terme. Donc, si vous voulez, j'irai vite. Du côté du mot, d'un mot aussi connu que celui de vie, littré donne une foultitude, une multitude de définitions, mais dont une seule porte sur l'organisme. Toutes les autres définitions sont morales ou métaphysiques, vie éternelle, vie morale, vie, etc. Bon. Et dans sa définition, d'entre un seul renvoi à l'infinité des parties organiques, dit Littré, c'est ce qui coûte le moins à la nature. Donc, la vie, c'est la nature. Et presque un siècle plus tard, Littré, n'est-ce pas, c'est 1878. Littré, c'est un médecin, avant d'être un philologue, et entre les deux, il a été le traducteur d'Hippocrate, le père de la médecine, celui auquel les médecins, encore aujourd'hui, les jeunes médecins, prêtent leur serment, dont le premier est d'abord ne pas nuire, primum non nocere, d'abord ne pas nuire le médecin à l'égard de son malade. Et Littré, là je fais Littré, moi c'est j'aime bien, j'ai travaillé sur Pasteur et j'ai bien évidemment rencontré Littré, qui a reçu Pasteur à l'Académie française. Et c'est Littré qui a été consulté pour forger un mot que vous connaissez et que nous utilisons tous, qui est le mot de microbe. Microbe, microbiologie, microbiologie. Les Allemands parlent de bactériologie, mais nous, Français, nous parlons de microbiologie. Et dans ce Littré de 1878, alors que le mot a été créé en 1876, il n'y a pas d'occurrence microbe. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas le problème de la vie microbienne et des stratégies à l'égard de la vie microbienne. Alors, dans le Robert, qui paraît en 1969, c'est-à-dire presque un siècle après, Robert ne mentionne pas, il n'y a pas d'occurrence vivant, mais il y a une occurrence vie qui est spécifiée comme relevant de la biologie et qui utilise de fait un vocabulaire technique et non plus le vocabulaire de Littré. Nous sommes dans le 19e siècle, dans le 20e siècle. Ensemble, je vous donne cette définition du Robert. 1969, nous sommes en plein 20e siècle. Ensemble des phénomènes, croissance, métabolisme, reproduction, que présentent tous les organismes animaux ou végétaux, unicellulaires ou pluricellulaires, de la naissance à la mort. La cellule. Il peut y en avoir un commentaire philosophique. On peut s'interroger sur son origine, mais je crois que nous pouvons dire que les questions d'origine sont toujours des fausses questions. C'est Kant qui nous l'a appris. Nous n'y étions pas. Et ce sont des déductions rétrospectives. Et il n'y a pas d'expérimentation, c'est-à-dire de répétition possible, même en laboratoire ou peut-être en laboratoire, ça se discute. Mais ça n'est plus alors l'origine. C'est une origine. Donc, son origine, sa nature, tantôt processus physico-chimique, tantôt dynamisme évolutif qui le transcende. Et là, Robert cite Louis de Broglie, un physicien. En revanche, dans le Petit Robert, l'édition de 1994, c'est tout proche de nous, 15 ans, une occurrence, alors qui marque notre siècle et qui marque cette révolution, une révolution tout à fait analogue à la révolution de la physique quantique au début du XXe siècle. Il y a une occurrence qui, et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de l'identifier, parce que c'est toujours en préparant les choses qu'on redécouvre ou qu'on découvre des choses nouvelles. Une occurrence qui est l'occurrence bio, B-I-O. Bio. Et il définit cela, et ça je vous demande, parce que je vais avoir tout un commentaire, toute une variation sur bio comme préfixe, utilisé comme préfixe aujourd'hui. Eh bien, dans le Robert de 1994, voici ce qu'il dit. Élément savant du grec bios. Merci. Élément savant du grec bios qui signifie vie. Cet élément, mais ça nous le savons, et c'est tout ce qu'il donne comme définition. Mais cet élément savant ne cesse depuis 4 décennies d'être un préfixe omniprésent. Et j'ai omniprésent, et c'est aussi la lecture, notre lecture du journal, de la bioéthique qui apparaît en 1971, c'était hier, à biomédical, à biopouvoir, ça c'est du Michel Foucault, qui montre comment les médecins et les politiques ont pris le pouvoir au nom de la médecine et de la biologie, et dans les problèmes racistes, bien évidemment. Je retrouve cette étrangeté, c'est-à-dire le fait qu'on ne pense pas, pardonnez-moi d'être linguistiquement, qu'on ne pense pas dans l'espèce d'analyse de la langue qui nous apporte beaucoup, qu'on ne pense pas le terme de bio comme préfixe, c'est-à-dire quelque chose qui se balade, quelque chose qui va d'un territoire à l'autre, etc. Dans l'édition du Petit Larousse, alors soyons précises, l'édition de 1996, vous ne voyez pas apparaître le terme de bio comme dans le Petit Robert, mais vous voyez, je ne ris pas, je les ai comptés, vous voyez 61 occurrences de termes commençant par bio. Nous sommes submergés par la vie. Par la vie entendue comme bio. Et non pas par la vie entendue comme l'entendait John Locke, terme connu et commun. Donc, voilà ce que nous dit 61 occurrences, précédées par bio, donné comme, je cite, adjectif invariable, abréviation de biologique, familier, sans engrais ni pesticides, naturel, des produits bio. Donc notre vocabulaire bio est désormais quotidien. La biodiversité est dans tous les journaux et sur mon marché, boulevard Raspail, il y a un étal qui affiche à la biofermière. Et ça, moi, je trouve ça absolument merveilleux. Alors, si vous voulez, cet itinéraire dans le vocabulaire montre, si vous voulez, une évolution. Et une évolution qui peut commencer par se demander, mais comment est-on passé du vivant, auprès duquel il y a toujours, en principe, une mère qui prend soin du vivant, un père éventuellement, un médecin, un confesseur, Et comment est-on passé de ce vivant qui renvoie au fait que l'homme engendre l'homme, la vache, le veau, et la mantre, enfin le doryphore, le doryphore. Comment est-on passé de cet objet de soin, de cet objet d'attention, de cet objet auquel il ne faut pas nuire, de cet objet qui... Enfin, de cet être, pardon, objet. De cet être qui oscille entre l'état de santé, dont la définition, et je l'emprunte à Descartes, elle est superbe. C'est le corps qui fonctionne dans le silence des organes. Bon. Mais dès qu'un organe se met à parler, c'est un signal ou c'est une souffrance. L'homme souffrant et malade, exprime quelque chose auquel le médecin, la mère, la sage-femme, la matrone, le rebouteux portent attention. Et comment est-on passé de ces êtres, animaux, plantes, mais enfin, qui se dit qu'un... Si, quand on se dit de temps en temps que la prairie a soif et souffre de la sécheresse. Donc il y a tout de même ce terme de souffrance qui est un terme très, très humain pour signifier un organisme végétal qui souffre. Comment est-on passé de cet être souffrant et malade? Oui, alors je voulais vous signaler ces problèmes de la souffrance et de l'expression par l'organe à l'intérieur d'un organisme. Il y a un petit texte d'un historien des sciences qui est chimiste et médecin, François Dagagné, que je trouve une petite merveille dans la collection Santé Labo. Le titre, c'est « La peau découverte ». Et c'est l'analyse de ce que la dermatologie peut nous apprendre sur la manière dont le corps parle. Et parle d'une manière telle que bien des médecins ne savent pas déchiffrer la parole de la peau. Et les analyses qu'il fait sont absolument extraordinaires et renvoient, si vous voulez, à ce que je disais de ce corps souffrant et malade, du silence des organes et du fait qu'à un moment donné, et on parle de maladies sourdes, les maladies qui cheminent comme ça, sourdement, et dont il faut, hélas, attendre une manifestation, sauf si le praticien est très attentif et déchiffre ce qui n'est pas dit. Mais encore faut-il le pouvoir et le chercher. Donc, le silence des organes et comment donc est-on passé de ce pouvoir médical très, et c'est pas seulement Thomas Diafarus, c'est pas seulement le médecin ridicule des comédies qu'on connaît bien, c'est le médecin qui soigne, c'est le médecin qui est, comme on dit, au lit du malade, et la clinique, ça n'est rien d'autre que d'être au lit du malade, au lit du patient. Comment est-on passé de cette pratique et de cette déontologie de l'âge classique à ce qui s'est fait au XVIIIe et au XIXe siècle, à une expérimentation sur le vivant qui passe par la dissection, par l'apparatus que les anglo-saxons appellent apparatus, c'est-à-dire par tous ces dispositifs qui empruntent et à la chimie et à la physique, pour essayer de voir comment ça se passe à l'intérieur, comment ça se passe à l'extérieur, comment ça se passe et quelles sont les chaînes causales qui mettent, et là c'est la définition de la physiologie au XVIIIe siècle, qui mettent l'anatomie en mouvement. c'est-à-dire qu'on cesse de décrire l'extérieur, on cesse d'observer l'extérieur et de décrire l'intérieur, ça c'est le propre de l'anatomiste, et on essaie de déchiffrer les mouvements qui animent, qui rendent vivant un organisme. Et je n'entrerai pas dans les détails, mais ce passage de l'observation à la description, alors ça a commencé avec les plantes, j'y reviendrai, enfin l'inné, la classification, la dénomination, les espèces, les genres, vous connaissez cela, mais on est passé de ce qui était observation, c'est-à-dire on ne touche pas, au fait qu'on y met la main, et qu'on y met la main d'une manière assez terrifiante pour une culture qui est encore une culture d'interdit. On y met la main, on mesure, on y met la main d'une manière qu'on peut considérer comme un peu gênante aujourd'hui, c'est-à-dire que, petite anecdote pour détendre l'atmosphère, au XVIIIe siècle, il fallait trouver des corps vivants. Au Vésal, il est bien oublié, Vésal. Il fallait trouver des corps vivants pour mettre des pompes, pour prélever des sucs, pour analyser les processus de la digestion. Réaumur avait trouvé un bon moyen. Il a utilisé des buses parce que les buses régurgitent. Alors il n'avait pas besoin de tuer la buse pour voir ce qui se passait dans son estomac. Elle régurgitait, il pouvait analyser ce qu'elle régurgitait pour voir quels étaient les produits qui accomplissaient la digestion à l'intérieur des deux estomacs de la buse. Mais les Britanniques, très pragmatiques, ça c'était très astucieux, ils s'entendaient avec les condamnés à mort pour que le condamné à mort, avant de mourir, vende son corps aux médecins, chirurgiens, physiologistes, expérimentateurs. Et alors, de deux choses l'une, où le condamné à mort donnait l'argent qu'il recevait à sa famille et puis allait gaiement sur l'échafaud, ou alors il se saoulait avant d'aller sur l'échafaud. Et là, il était tout à fait tranquille au moment de la mise à mort. Bon, ça c'est une... Et c'est une... il vient de paraître un gros bouquin. Lecteur sensible s'abstenir, qui s'appelle « Les corps vils », c'est-à-dire ces corps qui précisément sont les objets de l'exploration scientifique et d'une certaine manière de la vivisection. Donc là aussi on se heurte à ce problème de qu'est-ce que la vie et comment peut-on agresser la vie pour comprendre ce qu'est la vie. Et donc si vous voulez je dirais que cet énorme travail qui a été fait pendant tout le XVIIIe siècle a abouti à deux choses. A abouti, d'une part, à la révolte, ou plus exactement à une redéfinition du corps médical, qui, dans toute la restructuration sur lequel je passerai, la Commission royale de médecine, la réforme des études médicales, une restructuration qui a commencé avant la Révolution et qui s'est poursuivie jusque vers les années 1805 avec quelqu'un que je vais retrouver à l'instant et qui est Cabanis. Mais les médecins, et ça c'est ce que j'appellerais les tensions ou la scission, mais une scission qui n'est pas... Comment peut-on faire disparaître une corporation, entre guillemets, une corporation qui a affaire à l'homme souffrant et malade? Il est l'homme entendu comme enfant, femme. Et c'est le mouvement, et ce mouvement, je le trouve absolument superbe, c'est le mouvement qu'on a appelé le néo-hippocratisme, c'est-à-dire une redéfinition de la médecine qui ne récuse pas les acquisitions savantes en ce qui concerne les vivants, c'est-à-dire la vie, qui ne récuse ni Lavoisier, ni Réaumur, ni les débuts de l'embryologie, ni les débuts de la tératologie. Non, il s'en empare. Mais il s'en empare en rappelant que Hippocrate est toujours là et que le savoir doit être aussi le savoir de la souffrance, de la médecine et de la maladie. Et c'est la bannière de ce que l'on a appelé le néo-hippocratisme que tout le XIXe siècle s'est organisé autour de l'hôpital, autour de l'hospice et autour de la santé publique, c'est-à-dire de ce que l'on a appelé la police médicale. C'est-à-dire s'interroger non seulement au corps souffrant et malade, mais s'intéresser aux populations qui peuvent être souffrantes et malades, aux populations qui peuvent être misérables et douloureuses, aux populations qui peuvent être dangereuses. C'est le titre d'un célèbre ouvrage de Chevalier qui s'appelait « Classe populaire, classe dangereuse ». Enfin bon, et c'est le début, si vous voulez, de ce que ça avait déjà commencé au XVIIIe siècle, de l'urbanisme, de l'assainissement des foyers urbains et d'une médecine qui était une médecine à côté des corps individuels, mais mobilisée par le corps social. Et je crois qu'il faut bien voir les dates et les va-et-vient. Et alors, j'ai fait allusion à Cabanis. Et Cabanis, 1802, et ça va être ma manière à moi de redonner une définition de la vie et de marquer la naissance du terme biologie que vous avez vu. Je vais remettre les repères. Le terme biologie, il est créé simultanément en Allemagne et en France par Lamarck en France, par Treviranus en Allemagne en 1802. Qu'est-ce que c'est que la biologie ? Ça n'est plus la médecine, ça n'est pas la médecine. La biologie, c'est le savoir scientifique de la vie. La biologie, c'est l'exploration systématique et scientifique des phénomènes vivants, qu'il s'agisse de l'homme, du lézard. Nous en sommes toujours à l'échelle. J'ai parlé d'échelle sur mes repères, on en est toujours à l'échelle du visible. Nous ne sommes pas dans le savoir de l'invisible. Donc, c'est le bébé, c'est éventuellement le bébé dans le ventre de sa mère, c'est l'homme, c'est la femme, c'est la jument, c'est la fourmi aussi, ou c'est l'abeille. On s'est déjà occupé de l'abeille au XVIIIe siècle. Et donc, ce terme « biologie » est créé, mais 2 ans auparavant, Bichat, dont je vous... Rabier Bichat, il y a pas mal d'hôpitaux qui s'appellent Bichat. Bichat est partie prenante de ce néo-hippocratisme dont je parlais. Il est le héros de l'approche clinique de la maladie, c'est-à-dire au lit du malade, c'est-à-dire l'analyse des symptômes et l'analyse des lésions. c'est-à-dire l'anatomopathologie qui donne la raison de désordres vitaux, de désordres pathologiques, et qui assure, pardonnez-moi le terme un peu savant, qui donne l'étiologie du phénomène pathologique. Et donc Bichat, hommage à Bichat, et c'est dans ce texte de 1800 qu'il donne une définition sur laquelle je vais revenir de la vie. La vie, c'est l'ensemble des fonctions qui s'opposent à la mort. Vous voyez le vocabulaire de Bichat, qui diffère du vocabulaire de Schrödinger que je citais au tout début, l'état stable et l'état métastable, mais qui en fait dit exactement la même chose. L'ensemble des fonctions qui s'opposent à la mort. La vie, c'est la fonction. La vie, c'est le désir, pour parler comme Platon. La vie, c'est le mouvement, c'est le combat. Qu'il s'agisse de biologie ou qu'il s'agisse de philosophie. Donc, cette définition de Bichat va couvrir finalement le 19e et le 20e siècle. Je crois que c'est une formule qui m'accompagne philosophiquement et scientifiquement. C'est-à-dire que ça n'est pas une formule que je peux classer dans un fichier en n'y faisant pas attention. Et bien des problèmes qui sont soulevés en bioéthique, en biopouvoir, en biodiversité, bien de ces problèmes renvoient à cette définition de Bichat. Alors, je ne peux pas, dans cette espèce d'itinéraire rapide sur tous ces siècles, je ne peux pas mettre entre parenthèses, en ce qui concerne la vie, deux figures de la science qui flatte mon nationalisme. D'une part, c'est à peu près la même. Je vais aboutir à eux, mais je vais d'abord passer par. Attendez que je reprenne le repère. Il y a dans cette exploration de ce que peut être la vie un moment, et là aussi vos journaux sont pleins de l'un et pas de l'autre, le bicentenaire, on en parlait dans la voiture avec M. Bosco, le bicentenaire de l'apparition de l'origine des espèces de Darwin, de Charles Darwin. C'est-à-dire la théorie de l'évolution. Là, il n'est pas question d'origine, il n'est pas question d'expérimentation. Il est question d'interprétation d'un certain nombre de formes de la vie trouvées dans les îles Galapagos ou dans telle ou telle région, et avec s'appuyant sur un savoir qui est un savoir scientifique d'anatomie comparée, d'embryologie et de description qui ont nourri la première moitié du XIXe siècle et qui montre les plans de l'unité des plans de composition, les transformations d'un plan d'un plan de distribution à l'autre, et le fait que, soyons brutales, que si l'homme ne descend pas du singe, il y a un certain cousinage entre le singe et l'homme, et que nous devons penser changer totalement d'échelle de temps, passer de cette échelle de temps auquel le début du XVIIIe siècle se référait, c'est-à-dire les 4000 ans du déluge, à une échelle de temps qui est une échelle de temps géologique d'abord, et les fossiles attestent cette vie qui existait au Quaternaire, ces médailles de la nature qu'il importe de déchiffrer, et échelle de temps donc sans commune mesure à ce à quoi l'on croyait dans ce début du XVIIIe siècle, et une échelle de temps qui rend explicable et compréhensible la biogéographique, c'est-à-dire géographie, c'est-à-dire la répartition des espèces sur le globe, des espèces vivantes. Et puis, même date, et j'ai trouvé toujours, je ne crois pas à la providence, mais c'est tout de même providentiel que ce soit la même date pour les mémoriser, 1859, c'est pas seulement l'origine des espèces de Darwin, une interprétation de la vie sur Terre, et de la, bon, mais c'est aussi les travaux de Rudolf Virchow, qui sont la pathologie cellulaire, qui montre, alors là, si vous voulez, Darwin montrait la continuité de la vie, et Virchow, armé de microscopes performants, armé de produits chimiques permettant de visualiser les coupes qu'il faisait sur les tissus, Virchow découvre l'unité élémentaire de la vie, c'est-à-dire ce qu'il appelle cellule, la petite cage, cette cellule qui est un organisme vivant capable de se reproduire par scissiparité ou par s'il s'agisse d'eucaryotes ou de prokaryotes, et le fait que il n'y a pas, et c'est l'axiome de Virchow, il n'y a pas de cellules qui ne proviennent d'une cellule préexistante. Et c'est son axiome qu'il dit très noblement, comme tout Allemand qui se respecte au milieu du XIXe siècle, en latin, omnis cellula a cellula. Toute cellule provient d'une cellule préexistante. C'est-à-dire, ne nous interrogeons pas sur l'origine de la vie. L'origine de la vie, c'est la vie elle-même. C'est-à-dire que la cellule, c'est bon, et qu'il s'agisse d'organismes unicellulaires ou d'organismes, nous sommes des organismes pluricellulaires. On en a pas mal, hein. Ça se compte par plusieurs millions. Enfin, eh bien, des organismes pluricellulaires comme nous, nous provenons d'une cellule, la cellule germinative. Donc, si vous voulez, ça n'a pas bougé, enfin, peut-être un peu, enfin, on peut discuter, mais ça n'a pas bougé, pour moi en tout cas, ça n'a pas bougé depuis 1859. Et alors, Virchow dans cette enquête, il ouvre la voie à un personnage extraordinaire, non, il ouvre la voie à un univers extraordinaire qui est l'univers des vivants microscopiques. C'est-à-dire, c'est difficile de penser le vivant comme celui qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne manipule. Le vivant microscopique, c'est le vivant de laboratoire, d'une certaine manière, même s'il est partout dans la nature. Mais on ne l'identifie que dans l'approche scientifique de la vie. Et ça donne quoi ? Ça donne l'œuvre pastorienne, qui commence par les animaux et les végétaux, la bière, le choléra des poules, le charbon de le charbon de du mouton, et puis qui finit, alors en Allemagne c'est Koch et le bacille de Koch, c'est-à-dire le micro-organisme responsable, cause d'une pathologie qui est la pathologie du 19e siècle, la tuberculose. Si vous voulez, les pathologies du 19e siècle, qu'on a coutume maintenant, comme historien des sciences, de désigner comme pathocénose, c'est-à-dire l'ensemble des pathologies qui définissent une époque. Le 19e siècle, c'est la tuberculose, c'est la syphilis, c'est la variole, parfois le choléra et parfois l'alcoolisme. Mais vous avez là les fléaux auxquels les politiques et les médecins se sont attaqués pendant tout le siècle. Aujourd'hui, si vous voulez, on dirait quoi ? Cancer, maladie cardiovasculaire et sida. Bon, pardon ? Et l'alcool ? Il va disparaître. Bon, mais si vous voulez, chaque période, la peste noire au XIVe siècle, enfin, chaque période est définie par un ensemble de maladies. Et si vous voulez, pour le pastorisme, je l'ai dit au tout début, l'invention du microbe, l'invention de la microbiologie, l'invention du vaccin, c'est-à-dire de cette action préventive développe les défenses immunitaires d'un organisme, et vous avez tout ce qui va définir la médecine, mais cette médecine qui est partie du laboratoire de l'École normale supérieure, et puis ensuite du laboratoire de la brasserie Bigot, et puis ensuite des laboratoires de l'Institut Pasteur, qui a d'abord été créé, je vous le rappelle, en 1988, comme l'Institut vaccinal contre la rage. Et j'ai toujours pensé que la rage, c'était un coup médiatique extraordinaire. Un petit Alsacien, vous vous rendez compte, un petit Alsacien... après 71, après un petit Alsacien sauvé de la rage parce qu'il est venu se faire vacciner par Granger, par le docteur Granger, dans le laboratoire de l'École normale supérieure. Et puis, cette maladie qui fait peur, mais qui est rarissime tout de même. Enfin, qui est rarissime. Rien par rapport à la diphtérie. Qui interviendra un peu plus tard. Donc, je suis persuadée que l'orchestration de cette vaccination dont Roux disait qu'il n'était pas certain que les vaccinés étaient vraiment contaminés, etc., parce que précisément le processus, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le processus de la vaccination contre la rage est un processus long sur 21 jours et... il faut aller vite, donc on ne se demande pas si le mordu est vraiment contaminé. Il est mordu, on le vaccine. Bon. Mais cela dit, les résultats sont tels que la souscription internationale est ouverte, que l'Institut vaccinal contre la rage est construit et qu'il va s'appeler l'Institut Pasteur. Et que c'est à l'Institut Pasteur que cette institution où on travaille en laboratoire, il y a un hôpital bien sûr, mais on travaille en laboratoire, que c'est élaboré, alors je saute 70 ans, l'école des molécularistes français, c'est-à-dire des prix Nobel de 65, André Lvov, François Jacob et Jacques Monod, sur les problèmes de biologie moléculaire et de réplication de l'ADN. Donc, à mi-chemin, enfin, si vous voulez, entre génétique et biologie moléculaire. Bon, alors, l'invisible, j'y suis, et puis alors, tout de même, l'évocation très rapide, mais je ne voudrais pas être trop longue pour nous laisser le temps de discuter. L'évocation rapide de quelqu'un qui est dans la ligne droite de cette, de cette physiologie, de cette scientificité expérimentale, c'est Claude Bernard. Claude Bernard, un quasi contemporain de Pasteur, qui crée cette formule qui répond. Je suis toujours entre scission, tension, compétitivité, méconnaissance ou utilisation ou reconnaissance. C'est Claude Bernard qui, génialement, au Collège de France, et non pas à l'Institut Pasteur, au Collège de France, élève de Magendie, etc., lance, c'est le titre du livre de 1865, l'introduction à la médecine expérimentale. Et je crois que, après tout ce que je vous ai dit, cette expression ne va pas totalement de soi. Sur quoi fait-on expérience ? Le malade est-il un objet d'expérience ? Ou la médecine expérimentale est-elle faite au laboratoire pour servir au médecin au lit du malade ? Et c'est le sens que lui donne Claude Bernard. Mais vous voyez que toutes les dérives sont possibles. Et on en a connu de tragiques de 40 à 45. Et on en a connu de tragiques bien avant. Corps expérimentant sur la maladie du sommeil au Congo, en 1906, c'était pas mal, c'est-à-dire mettant dans des barbelés des noirs appâtés par je ne sais quel gain et leur inoculant la maladie du sommeil pour voir ce qui se passait. Donc, mais pour le bien de l'humanité, ne pensez pas. Ne me taxez pas d'anti-germanisme. Je parle allemand, je suis allée souvent travailler en Allemagne et je sais très bien faire. Mais si vous voulez, Alexis Carrel, c'est la même chose. On est toujours à la limite d'eux. Et si vous voulez, je dirais là encore une anecdote. Madame Claude Bernard a quitté son mari en entraînant avec elle ses deux filles parce qu'elle ne supportait pas les expérimentations sur les chiens, les vivisections sur les chiens, en particulier quand il travaillait sur la glycémie, sur la régulation hépatique de la glycémie. Et elle ne supportait pas cette intervention sur l'animal. Mais je dirais aujourd'hui, qu'est-ce que la vie ? Aujourd'hui, et je pense à un très beau livre, qui renvoie peut-être à ce que je vous ai dit, à un très beau livre d'une de mes amies collègues, qui est Elisabeth de Fontenay, et qui s'appelle « Le silence des bêtes ». Un livre qui a paru il y a une dizaine d'années, un gros livre, mais qui a l'avantage de pouvoir se lire par petits chapitres. C'est-à-dire qu'on ne le prend pas à la page 1. Et chaque chapitre se suffit à lui-même et apporte quelque chose. Et le début de la quête d'Elisabeth de Fontenay a été la constatation que le philosophe ne parlait jamais de l'animal. Or, l'animal, c'est la vie. L'animal, c'est un vivant. Et peut-être faut-il être un philosophe qui ait fait du cheval pour savoir que l'animal parle. Ou avoir un chien, comme Madame Claude Bernard, pour savoir que. Et donc, dans ce livre, donc, Le silence des bêtes, on retrouve quand l'animal parle-t-il, c'est quand il a mal, quand il souffre. C'est éventuellement quand il est heureux. Mais sinon, c'est le silence des bêtes. Et les philosophes, et si vous voulez, Elisabeth de Fontenay et moi, de temps en temps, on rigole ensemble en se disant qu'on n'aime pas Descartes, alors qu'on aime bien Descartes, parce que Descartes a parlé de l'animal-machine et a élaboré un mécanisme qui implique précisément que l'organisme ne parle pas et que l'organisme animal ne parle pas. Que la vie ne parle pas, en fait. Or, Descartes savait très bien ce que c'était que la vie, comme tout un chacun. Alors, je voudrais, après cette... je pense essayer de montrer comment, dans un long temps, comment on pourra reparler de comment, dans un long temps, on a vu se dégager et se distinguer le vivant comme objet de soin, du vivant comme objet de science, et la rencontre des deux. Et la rencontre des deux qui fait que aujourd'hui, nous sommes à la fois dans la biologie et dans la médecine, à la fois sur le plan de la manière dont on appréhende la réalité et la manière dont on se comporte. Pensez simplement à l'usage du médicament. D'une certaine manière, et c'est là où je ne vais pas entrer dans les problèmes, parce que ça paraîtra peut-être dans la discussion, les problèmes de clonage, les problèmes d'humanité, etc. Mais je voudrais, pardonnez-moi, j'avoue que je reprends mes notes pour ne pas me dire que je laissais passer quelque chose que je voulais vous dire. Je reviens à mon longtemps, c'est-à-dire 17e, 20e siècle. Il y a un aphorisme que vous connaissez certainement, qui est l'aphorisme de Bacon, un logicien, philosophe, dont toute notre rationalité s'est nourrie. Et s'est nourrie pour la rationalisation, pour la mise en question du principe d'autorité et pour l'application de ce que j'appellerais, en utilisant une formule de Kant que je trouve absolument superbe, tout objet doit être l'objet d'un libre et public examen. C'est ça la critique. Il n'y a pas d'objet interdit à la critique. Il n'y a pas, pour le philosophe, un certain philosophe, pour Kant, le libre et public examen. Et je voudrais soumettre à ce libre et public examen cet aphorisme de Bacon qui est très simple. Savoir, c'est pouvoir. On peut autant qu'on sait. Si on sait comment se déplacent les planètes, on peut dire telle éclipse, on peut dire tel retour, on peut dire tel passage. Savoir ce que c'est que la fonction glycogénique du foie, c'est pouvoir soigner un foie malade. C'est pouvoir rétablir un taux de glycogénèse via l'insuline ou ailleurs, enfin bon, peu importe, pouvoir rétablir cet équilibre recherché dans un état instable qui est la vie. Donc savoir, c'est pouvoir. Mais, et c'est là, c'est une découverte relativement récente. moi que je date d'une manière tout à fait symbolique à l'année 1945, c'est-à-dire à l'explosion d'Hiroshima. Et au mot d'Oppenheimer, la science a connu le péché. C'est-à-dire que la science a mis au point une arme telle qu'on ne peut pas savoir ce que l'on a déclenché parce qu'on le pouvait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a un retournement de la formule baconienne, et on le voit bien aujourd'hui dans les questions que nous nous posons, aussi bien sur le plan du réchauffement de la planète, que sur le plan de la biodiversité, que sur le plan de la bioéthique, que sur le plan du biopouvoir, que sur le plan... Il y a un certain nombre de conséquences que l'on ne sait pas, dont on ne sait pas la réalité, dont on ne sait, si vous voulez, l'image du battement d'ailes du papillon, qui est tel qu'on ne sait pas ce qu'il va déclencher, le tsunami qu'il va déclencher là-bas, etc. Donc, si vous voulez, nous sommes, me semble-t-il, et là je philosophe, à une période où quelque chose dans nos références est en train de basculer. Une prise de conscience qui est le fait d'un certain nombre de scientifiques depuis longtemps, mais qui est devenue une prise de conscience collective, une prise de conscience nationale et internationale, depuis relativement peu de temps. Je me souviens de mon père quand j'étais petite, et vous voyez que ça fait longtemps. Mon père, qui était un écologiste avant la lettre parce qu'il était nourri d'antiquités grecques et latines, me disait « Économise l'eau, ferme le robinet quand tu te brosses les dents. L'eau est bon. » Il disait ça il y a combien de temps ? 60 ans. Bon. Et c'est maintenant que les manchettes de journaux parlent de l'eau comme une ressource. Bon. Alors, qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la vie ? Alors, j'ai essayé de dire qu'à force de temps, il y avait tous ces changements. J'ai essayé de dire quelles que soient les approches scientifiques de la vie, il y avait une espèce de résistance de la vie qui se voulait distincte à travers la souffrance, à travers l'imagination, à travers le rêve, à travers l'engagement, à travers ce que j'appellerais la culture, c'est-à-dire le fait que nous sommes des animaux qui créons des symboles et qui utilisons le langage. Et que nous aurons beau dire, nous référer à Bichat, nous référer à Schrödinger, il y aura toujours dans la vie, dans le vivant, les vivants que nous sommes, quelque chose qui est de l'ordre de la contestation, de la constatation, de la contestation, et éventuellement de l'engagement. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas tout autant que nous sachons, ou que nous ne savons pas tout ce qui nous permettrait de pouvoir couvrir la totalité du savoir, qu'il faut s'arrêter. Et alors je voudrais, et ça sera ma manière à moi, de conclure non pas pour ouvrir le problème ou la discussion sur le don d'organes, sur la FIVET, sur la démographie, non, on pourra en parler, mais pas maintenant. Je voudrais conclure sur une image et sur une anecdote. L'image, et je reviens à mon, à mon interrogation sur qu'est-ce que la vie, l'image, c'est une caricature qui me fait beaucoup rire et que je trouve pleine de sens. C'est-à-dire que la vie, elle est là, nous la vivons, nous, d'une certaine manière, nous l'agissons, et on peut être contestataire, mais il faut être contestataire à bon escient. Et voici cette caricature. Que j'ai relevé dans un journal il y a 2 ou 3 ans et qui m'a tellement plu que je l'ai photocopié et que je vous la soumets et que je vous la soumets, non pas pour les trois premiers, pour les trois premières occurrences qui sont qui parlent d'autre chose, mais pour la dernière. Pour la dernière. Et pour la dernière qui me renvoie à ma définition de Bichat, la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort, et qui me renvoie à une question qui nous concerne tous. Si nous parlons de la vie, est-ce que nous mettons entre parenthèses la mort ? Si nous sommes des soignants ou des soignés, est-ce que nous mettons... Pardon ? Si nous sommes des soignants ou des soignés, est-ce que nous mettons entre parenthèses cette possibilité qui est inéluctable ? Et d'une certaine manière, je conclurai ce premier point de conclusion par un mot de salle de garde, vous me pardonnerez. La vie est une maladie transmissible sexuellement, l'étale à 100%. C'est grossier, mais c'est la salle de garde. Et ça ne dit pas autre chose, mais en un autre vocabulaire, que la définition de Bichat. Et je m'interroge beaucoup à propos de la profession médicale, à propos de nos propres affects personnels. Est-ce que nous ne sommes pas dans une civilisation où nous mettons entre parenthèses cette inéluctable fin de la vie ? Je ne sais pas, mais je m'interroge beaucoup. Et puis, la seconde anecdote, elle fait aussi intervenir la mort, mais elle est beaucoup plus... Je pense qu'elle vous plaira plus. C'est aussi l'entrecroisement d'une nature, de nos cultures qui sont diverses et qu'on ne peut pas mettre entre parenthèses. Notre perception de la vie est une perception à la fois naturelle, l'homme engendre l'homme, et culturelle, la manière dont nous engendrons, la manière dont nous vivons un certain nombre de choses, la manière dont nous vivons notre propre mort est un phénomène culturel. Et autant il y a une biodiversité, autant il y a une diversité des cultures qui doit être prise en compte dans la manière dont on approche les autres, qu'ils soient japonais, maghrébins, soudanais ou brésiliens. Et c'est une anecdote brésilienne que je voudrais vous donner pour terminer. Il se trouve que le Brésil, je le connais assez bien. Il y a quelques années, nous avons été entraînés dans une expédition sur l'Amazone et le Rio Negro, qui était une expédition d'inspection d'un programme lancé par l'État de Belém, et qui s'appelait l'ITERAM, et qui était une réponse forte contre la construction de la transamazonienne, de la route transamazonienne, qui entraîné déforestation, déplacement des populations indigènes, accablement des rives, enfin bref. Et ce programme consistait à faire venir des familles du Nord-Est, qui est une des régions les plus pauvres du Brésil, de leur donner à chacune 100 hectares le long du fleuve, et non pas le long d'une route construite à l'occidentale, bitumée et déforestante, et d'assurer à ces familles l'éducation, la scolarisation, l'aide technique et agrotechnique, et l'aide médicale. Et cette aide médicale, elle était assurée par un bateau-hôpital, qui remontait et descendait l'Amazone et le Rio Negro régulièrement pour soigner à la fois les cas graves et les cas pas graves. Et nous avons eu le privilège de nous embarquer sur ce bateau pendant quelques jours et de suivre la manière dont travaillaient ces médecins qui avaient chacun 3 semaines de travail à bord du bateau hôpital. Et une jeune médecin, c'était une femme, s'est mise à nous parler et à nous expliquer que quand elle était arrivée dans sa première mission, elle avait été absolument affolée du nombre de décès liés à des pathologies qui n'étaient pas graves et qui, normalement, n'auraient pas dû avoir cette létalité à 100% dont je parlais tout à l'heure. Et elle a réfléchi. Et elle s'est rendue compte que ce bateau avait été conçu à l'occidental, c'est-à-dire avec des lits de fer. C'est tellement commode, les lits de fer, ça repousse les microbes. C'est parfaitement net. Mais que tous ces Indiens du Nord-Est se disaient que se mettre dans un lit, c'était pour y mourir. Et ils y mouraient. Et là, elle a été géniale, culturellement géniale. Elle a obtenu de changer tous les lits, elle a mis des hamacs. Et la mortalité a baissé en 3 jours. Donc vous avez là une démonstration en ce qui concerne qu'est-ce que la vie, de la rencontre entre nature et culture. Voilà, j'espère avoir un peu philosophé.
Il y a des gens qui n'ont pas pu lire là ce qu'il y avait sur. Dans le premier, c'est je ne veux pas naître. Le second, je ne veux pas étudier. Le troisième, je ne veux pas travailler. Et le quatrième, je ne veux pas mourir.
Oui, voilà.
Serge, ouais. Bon, ben merci. On va. Voilà, on peut démarrer maintenant.
Oui. Allez. Je voudrais vous poser une question, madame. Les malades, quand ils sont malades, les médecins, ils les soignent normalement. Et puis, les médecins sont beaucoup courageux pour ce qu'ils ont fait. Voilà.
Oui, mais ça n'est pas une question, c'est une constatation.
Oui, voilà.
Et je vous rejoins totalement.
Oui, voilà, exactement.
Mais je suis très frappée, là aussi je suis assez vieille, pour constater que bien des médecins, surtout les spécialistes, ne vous touchent plus. Et ils sont devant leur ordinateur et ils font la synthèse des analyses faites en laboratoire. C'est-à-dire que la clinique a disparu. Enfin, a disparu. Pas partout.
Vous de demander le micro, hein.
Moi, ce n'est pas vraiment une question, mais ce qui m'a frappé, c'est que presque à la fin de votre intervention, vous avez parlé de l'eau. Et moi, il me semble que c'est le point de départ de la vie, si je ne me trompe.
De l'eau ?
L'eau, oui.
Benveniste le dit, mais...
Parce qu'on on parle de la vie.
Oui.
Il n'y a pas de vie sans eau.
Oui.
Donc, la vie, c'est l'eau.
Éventuellement, oui. Très bien. Troisième point de conclusion.
Oui, et c'est le problème du troisième millénaire.
Oui. Oui.
L'accès à l'eau, l'eau potable, bien sûr, l'eau de la vie.
Très bien.
Oui, vous n'avez pas trop abordé l'aspect religieux dans votre intervention. On sait effectivement que depuis la nuit des temps, la croyance religieuse est inféodée par nos esprits, et notamment à l'heure actuelle où on sent effectivement de par le monde des évolutions, enfin les évolutionnistes et les créationnistes qui reviennent un petit peu à la charge par rapport à cet aspect de la vie et de la naissance de la vie.
Vous avez raison, c'est délibéré. C'est délibéré pour deux. En fait, c'est délibéré parce que je me suis totalement limitée. Est-ce que c'est une limitation ? Limitée aux problèmes posés par la philosophie des sciences, en ce qui concerne, c'est-à-dire par, si vous voulez, ce terme de bio sur lequel j'ai ironisé, mais qui est tout de même, qui a été la transcription que j'ai donnée à la question qui m'était posée, qu'est-ce que la vie ? Et la deuxième raison, c'est que la sphère du religieux ne me concerne pas vraiment, quel que soit l'intérêt que j'ai pour les textes et les croyances. Mais dans un discours, ou dans un discours que je veux rationnel, si vous voulez, je ne peux pas parler de la vie éternelle. Je peux parler éventuellement de la vie intérieure, mais c'est de l'ordre de la croyance, et je peux peut-être confronter une croyance à une autre croyance, mais en même temps, je m'en détourne dans la mesure où je plaide pour le libre et public examen. C'est-à-dire que je peux discuter et comparer des croyances, mais je ne peux pas vouloir imposer ma croyance à l'autre. Et ma référence est une référence que je dirais interculturelle, respectueuse, mais défensive. Mais ça, c'est très personnel. Et ça n'est pas de l'ordre du cours.
Et cette vie éternelle que, effectivement, tout à chacun et les religions nous emmène effectivement sur un cheminement où, après la mort, il y aura effectivement une vie éternelle. Est-ce que nous ne sommes pas à l'aube avec les technosciences où le clonage nous amènerait effectivement sur un chemin où notre société, effectivement, et je rejoins votre dernière image, je ne veux pas mourir, effectivement, cette peur d'une fin que effectivement notre existence aura. Tout à chacun aura une fin. Et le clonage nous emmène effectivement sur des chemins un petit peu, je dirais pas fous, mais où on donne effectivement espoir tout à chacun qu'on pourrait obtenir une vie d'une certaine manière éternelle à travers le clonage de chaque être humain.
C'est une possibilité, mais je dirais... Si vous voulez, moi, je répondrai. J'ai toujours rêvé d'écrire des livres de science-fiction. Et parce que je crois que, si vous voulez, pour l'histoire des sciences est une chose, mais la science-fiction en est une autre. Et si vous lisez Asimov ou les autres, ou Huxley, vous êtes tout à fait frappé de la pertinence de ce qu'ils ont pu dire du côté de la fabulation ou de l'imaginaire. Ou que ce soit Mary Shelley avec Frankenstein. Et je voyais il y a 4-5 jours la mise sur le marché de robots, de robots efficaces pour... Et je me disais, c'est merveilleux. Effectivement, entre le robot et le clonage et le clone, vous avez le vivant expérimental. Ça, c'est le clone. Et j'emploie le terme vivant expérimental. C'est un terme que Canguilhem a utilisé pour définir ce vers quoi pouvait s'orienter l'invention biologique. Et elle existe. L'invention biologique. Mais, et là je vous répondrai très fortement, et là je vais retourner à mes Grecs bien-aimés, les stoïciens, dans leur logique, distinguaient trois catégories. La catégorie du nécessaire, la catégorie du possible, et la catégorie du souhaitable. Et on rejoint d'une certaine manière Bacon et pouvoir et savoir. Le nécessaire, c'est ce qui est scientifique, entre guillemets, c'est-à-dire déterminé, causal, techniquement réalisable. C'est possible. Et le clone parfait, l'enfant parfait, c'est possible. Tri d'embryons, tests génétiques, allons-y gaiement. Est-ce que c'est souhaitable? Et c'est là, si vous voulez, où je me dis que, sans être, et je ne suis, sans être aucunement dogmatique, je me demande si nous n'avons pas perdu la notion de la catégorie du souhaitable. Alors, vous pouvez me dire, le souhaitable, il peut être déterminé par une croyance. Oui. Mais le souhaitable peut être aussi déterminé d'une manière qui n'est pas de croyance, mais qui est de démonstration ou de conviction. Mais quelle est la différence entre la conviction et la croyance? Bon.
Demandez le micro, allez là-bas. Quittez-en ceux qui sont dans le fond. C'est facile, il suffit de le prendre.
Non, il n'y a pas de... Je ne sais pas, c'est toujours difficile de parler après vous avoir écouté. Je me sens relativement tout petit, mais une question que je voudrais poser en vous écoutant, la frontière entre la science et la philosophie, entre la science paraît être philosophie et la philosophie science. Je m'explique, par exemple, quand on parle de désir de vie, le désir à la fois, c'est, on peut dire que c'est une notion de survie, enfin que toute espèce a pour survivre. Et à la fois, le désir, c'est la pensée, c'est la philosophie, c'est la distinction entre peut-être l'humain et l'animal, je ne sais pas. Quand c'est élaboré par le langage et par...
Alors, c'est une vraie et difficile question. Je dirais que, si vous voulez, la philosophie, si on cesse de la penser comme une discipline scolaire ou universitaire, c'est très proche du savoir scientifique, c'est-à-dire c'est très proche dans son origine, c'est-à-dire essayer de comprendre. Et si vous voulez, je vais répondre d'une manière très personnelle, mais comment passe-t-on de la philosophie à l'histoire des sciences en ne cessant pas d'être philosophe?
Et en étant scientifique.
Oui, pas vraiment, enfin, pas professionnellement. Mais c'est qu'on ne cesse de poser des questions. Et finalement, dans cet âge classique que j'ai beaucoup exploré, 17e, 18e siècle, il n'y avait pas de différence entre savant et philosophe. Le terme de scientifique n'apparaît qu'à cette tard. Il apparaît à la fin du 19e siècle. Mais science, savant, érudit, philosophe, c'est grosso modo la même chose, c'est-à-dire des individus qui ont affaire au langage et à l'écrit, qui ont affaire à une forme d'interrogation sur le réel, et qui pensent que la démarche rationnelle est une démarche démonstrative. Et si vous voulez, moi, ce qui me frappe dans le monde scientifique qu'il m'arrive de côtoyer, c'est que certains scientifiques sont des scientifiques qui se posent des questions sur leur propre activité et que beaucoup de scientifiques sont arrogants, c'est-à-dire n'étant pas philosophes parce qu'ils ne se posent pas de questions. Et c'est ce que voulait dire Oppenheimer, d'une certaine manière. Et quand vous regardez il y a beaucoup d'écrits, des pièces de théâtre, etc., sur cette période et sur toutes les périodes que l'on connaît, qu'il s'agisse de l'arme atomique ou de l'arme biologique ou des gaz asphyxiants de Haber, qui a tout de même eu le prix Nobel tout en ayant mis au point les gaz asphyxiants au moment de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Il y a ce que Oppenheimer appelait le délice technique, c'est-à-dire que le délice scientifique est tel qu'on ne se pose pas de questions sur, alors je ne dirai pas la pertinence, je reprendrai les catégories stoïciennes, si c'est souhaitable ou pas souhaitable. Alors vous me direz, si on se pose trop de questions, on ne fait rien. Je suis bien de votre avis. Mais en même temps, il y a des questions qu'on ne peut pas ne pas poser. Et c'est en cela que tout un chacun, tout vivant, est philosophe. Moi, si vous voulez, je sais très bien pourquoi je suis passée à l'histoire des sciences. C'est que je sais très bien ce qui m'a déterminée. C'est quand j'ai eu à faire une dissertation à la Sorbonne sur l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être. Non, l'être. L'être, l'essence, l'être. L'être. Et ça m'a semblé un type de question que je n'arrivais absolument pas à traiter d'abord et qu'ensuite... qui me semblait me détourner des vraies questions. Et les vraies questions, ça peut être tout aussi bien tu ne voleras pas, oui. Le respect, ça existe, oui. Penser l'avenir, oui, même sans moi. Penser l'avenir qui ne me concerne pas, oui. Être responsable, oui. Alors, on retrouve bien évidemment un certain nombre de thèmes de croyance, mais elles sont à l'épreuve de l'examen.
Petite question, qu'est-ce que la vie quand même? Je vais rentrer chez toi, qu'est-ce que tu vas répondre?
Je vais avoir du mal à résumer à ma femme qui n'a pas pu venir ce soir et qui bon, elle est en train de répéter sur un autre sens de la vie, sûrement, je ne sais pas.
Peut-être à être con ce que je vais demander, mais est-ce qu'on peut dire qu'une pierre vit, qu'une planète vit, alors qu'il n'y a pas de vie biologique? Puisqu'il y a peut-être une évolution quand même, même si ce n'est pas de la chimie ou... Je ne sais pas, puisqu'on est dans la philo.
Je dirais qu'elle existe. Alors là, si vous voulez, j'ai limité le sens de vie et dans la mesure où je l'ai pensé justement comme un ensemble de fonctions qui résistent à. Et le système je dirais que le silence de ces espaces infinis m'effraie, pour citer Pascal, et que je dirais que ce qui donne vie à ce silence infini, c'est l'œil de l'astronome. De l'astronome, pardon. Y a-t-il de la vie sur Mars? Y a de l'eau.
Nous y voilà. Non, mais même sans eau.
Non, non.
Même sans eau. Parce que c'est ça. Là, on touche vraiment au... Oui. Au principe de la vie, oui. Est-ce que c'est avec ou sans eau? Est-ce que c'est la pierre, pas la pierre? Mm-hmm. Oui, c'est ça qui m'intrigue.
Moi, je dis qu'une pierre vit quand vous la tenez dans la main. Un galet, ça vit quand vous l'avez dans la main. Mais c'est parce que vous êtes vivant.
C'est vrai que ça ne fait pas penser à la mort, un galet. Ça devient
non.
chaud
non.
quand on le touche. Donc,
Oui. Ma réponse est...
Et puis on a oublié de parler de l'énergie du soleil dans la vie.
Ah, c'est... Je me bats beaucoup pour l'instant pour qu'on rende hommage à un pionnier de l'énergie solaire qui est Félix Trombe et qui a été un chimiste qui a, dès les années 47, construit le premier four solaire dans les Pyrénées-Orientales, à Mont-Louis, qui a été à l'origine du four solaire d'Adeyo que tout un chacun peut visiter, qui a mis au point les panneaux photovoltaïques, tout le monde a oublié, et qui a agi de telle façon que la France a eu pendant un bon bout de temps, 5 années d'avance dans les recherches sur l'énergie solaire par rapport aux États-Unis.
Vous parlez avant ou après Sarkozy? 5 années. Non, c'est du mot.
Il est remonté à l'énergie solaire?
Je ne suis pas au courant, alors.
Non, mais vous savez, je ris. Je ris, mais... je ris beaucoup parce que vous me faites penser à un mot de Kant, non pas dans la critique de la raison pure, mais dans la critique du jugement, qui est une des premières méditations philosophiques sur ce qu'est un organisme. Et ça me renvoie au robot de tout à l'heure. Kant écrit « La montre n'engendre pas une autre montre. Et la montre est bien incapable de se réparer elle-même. C'est toute la différence entre l'objet technique et l'être humain.
Bah alors enfin, Voltaire avait tort avec son grand horloger.
Non, parce que le grand horloger, oui, il a, le grand horloger répare. Il crée, il répare.
Oui, mais il crée des montres.
Oui, il crée des montres. Mais il crée aussi des monstres.
Désir, non, non. Moi, ça m'a fait penser la question du. Ça m'a fait penser à Armand Gatti, qui c'est un homme de théâtre, hein, pour oui. ceux qui ne connaissent pas. C'est qui dit quelque part, l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme, il a créé le point d'interrogation.
Oui. Excellent. Ça revient. Et alors, ça. Si vous, il y a un t-shirt. Chez Extraordinaire, chez, attendez, c'est rue Saint-Sulpice à Paris, avec noir avec un point d'interrogation. Faites-vous l'offrir.
Oui, c'est peut-être. Vous auriez dû en apporter.
Oui, là justement, vous m'avez fait un cadeau, ben, je vais vous faire un cadeau.
Mais... Bon, ben, on va peut-être s'arrêter là, mais on peut. Après, si vous restez manger, c'est. Donc, on va pouvoir, on va pouvoir discuter. Donc, merci, Claire. Merci.